Ostern und das ging um die drei Säulen von dem Willen Gottes.
Bon, ok.
Ja,
j'aimerais, j'essaye encore une fois. Ça fonctionne, louez le Seigneur. J'aimerais reprendre des points que Andreas a partagés hier. Il s'agit des trois colonnes concernant la volonté de Dieu. Je l'écris nouvellement au tableau. J'espère que nous pourrons le lire. Donc, la première colonne est celle du salut. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. C'est une volonté de Dieu. La deuxième colonne est la sanctification. La volonté de Dieu est notre sanctification. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est aussi l'édification de l'Église. Nous avons parlé de colonnes. Andreas l'a désigné comme des colonnes. Et je pense que ça correspond bien à ce que cela exprime. Si nous sommes dans ces trois domaines, nous sommes sur une voie sûre. Quoique elles ne soient pas séparées les unes des autres. C'est pas premièrement le salut, ensuite la sanctification, ensuite l'édification de l'Église. Non, tout cela va ensemble. Le salut désigne la sanctification. Et la sanctification est là pour l'édification de l'Église. Et dans l'édification de l'Église, nous avons le salut à nouveau. L'édification de l'Église produit plus de sanctification. Les choses sont vraiment imbriquées les unes dans les autres. Et le tout basé sur un fondement. Donc, j'ai un peu quelque chose d'autre. J'écris au-dessus, dans la volonté de Dieu. Vivre, en fait, en français, c'est vivre dans la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de voir la volonté de Dieu, mais de vivre dans la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la question « Quelle est la volonté de Dieu ?» mais comment est-ce que je participe à cette volonté de Dieu ? Hier, je m'étais fait une petite note. La volonté de Dieu fait que si nous collaborons, Dieu a sa volonté, oui. Mais afin que cette volonté soit mise en pratique, Dieu a besoin de notre collaboration. Il a besoin de notre volonté qui dise oui, qui s'implique. C'est aussi l'exemple que nous avons vu hier quand Jésus a prié avant sa crucifixion. Oui, il avait sa volonté, mais il a prié. Oui, Père, que ta volonté soit faite. Donc la volonté du Père était là, elle était claire. Mais elle avait besoin que nous soyons volontaires pour entrer dans sa volonté, pour accomplir sa volonté. Et sans notre accord, sans notre volonté, le fait que nous soyons volontaires pour vivre dans la volonté de Dieu, il n'y a aucune efficacité si nous ne sommes pas d'accord. Nous avons besoin de nous porter volontaires et de vouloir faire sa volonté. Nous devons le déclarer. Dieu veut bâtir son Église, mais il a besoin de notre collaboration, que nous voulions. Nous avons besoin pas de notre volonté, mais de que nous soyons volontaires pour que sa volonté se fasse. Que nous ne mélangeons pas tout et que nous ne prenions pas sa volonté en le mélangeant avec nos propres concepts, nos opinions. Non, la volonté, le salut, c'est comme ça. Nous n'avons pas besoin de nos propres volontés, ni pour le salut, ni pour la sanctification, ni pour l'édification. Donc il ne s'agit pas seulement de connaître la volonté de Dieu, mais de vivre dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas seulement le titre d'une conférence. Comme nous avons lu le verset hier, que dit-il ? Que nous vivions dans la volonté de temps pour le reste qui nous reste à vivre. Nous voulons vivre dans cette volonté de Dieu et expérimenter le salut, la sanctification, l'édification de l'Église. Et tout ceci édifié sur... Donc, connaître la volonté de Dieu, c'est une chose. Il nous faut connaître la parole de Dieu. Nous avons chanté le chant. La parole de Dieu nous révèle sa volonté. Mais j'ai trouvé moi aussi qu'Andreas, hier, n'a pas pris en bas comme base, n'a pas écrit la parole de Dieu. C'est peut-être proche, c'est peut-être, ça sent juste, ça résonne de manière juste. Nous connaissons la volonté, donc nous la vivons, sa volonté. Mais Andreas avait écrit un verset d'Hébreu. Je prends le contenu du verset, que j'écrirai un peu différemment. La base, c'est Jésus. Le fondement, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis venu. Le je suis. Ça, c'est le fondement de la volonté de Dieu. Le connaître, lui, le je suis. Donc, c'était dans Éphésiens 1, ce que nous avions lu. Nous faisons connaître, pas seulement sa volonté, mais le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, il ne suffit pas de connaître la parole. Nous devons le connaître. Lui, dans lequel est caché le mystère de sa volonté. Mais il aimerait nous le faire connaître, ce mystère. Sa volonté est un mystère. Quand nous lisons assez, ok, c'est écrit, tout est clair, c'est écrit là. Mais là-dedans se trouve un mystère, et pour le connaître, ce mystère, il nous faut le connaître lui. Lui dans lequel se trouve le mystère. Ce mystère qu'il avait formé en lui-même, ce dessin. Et là, ceci, Dieu aimerait nous faire entrer dans cela. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est en fait l'Évangile. L'Évangile nous amène là-dedans. Il veut nous faire connaître que nous le connaissions. Si nous ne le connaissons pas, lui, je ne suis pas convaincu que nous connaissions sa volonté. Je ne veux pas dire que nous ne le connaissions pas du tout, mais il s'agit de plus. Il s'agit de connaître le mystère de sa volonté. Quand Jésus a vécu sur cette terre, il y avait également beaucoup. Il y a eu beaucoup de confrontations avec les scribes, les docteurs de la loi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une différence. Les docteurs de la loi connaissaient la parole. Ils l'avaient apprise, ils l'avaient enseignée. Ils savaient ce que Dieu veut. Ils savaient quelle était la volonté de Dieu. Et ensuite, Jésus est venu. Et ça a été autre chose. Quelle est la différence ? J'aimerais lire un verset de Jean 8. Dans Jean 8, nous voyons clairement. Jean 8, le verset 45. Jésus leur dit, aux docteurs de la loi, c'est pas la bonne référence. C'est mon Père qui... Ils pensent connaître Dieu. Ils pensent parce qu'ils connaissent l'Écriture. Mais ils ne le connaissent pas, lui. Verset 55, pardon, 54, 55 maintenant. Dieu que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Ça, c'est la différence. Et quand je dis, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. C'est puissant, ceci. Il ne s'agit pas de faux ou de juste. Il s'agit de connaître le Père, de connaître le Dieu vivant. Alors, nous apprenons à connaître sa volonté. Alors, nous comprenons ce qu'est le salut, la sanctification, l'édification de l'Église. Il ne s'agit pas simplement de lire la parole et puis en disant « Ah, j'ai compris, c'est logique, c'est juste, je connais la volonté de Dieu, je vais la faire. » Mais est-ce que je le connais, lui? Lui, dans lequel la volonté s'est exprimée. Est-ce que je connais le cœur de celui dans lequel se trouve ça, là, cette volonté? Et mon désir, pendant ce temps, dans cette communion que nous avons, est que nous ayons faim. Que nous ayons plus faim de connaître cette volonté et de l'expérimenter, de vivre dans cette volonté. Au premier point, par rapport au salut, on va continuer. Donc Dieu voudrait révéler le mystère de sa volonté par l'intermédiaire de l'Évangile. C'est le point numéro 2. L'Évangile que nous avons reçu, c'est que Dieu voudrait nous faire connaître sa volonté. Et je pense que nous sommes souvent trop restreints. Nous pensons de manière trop restreinte quand nous pensons à l'Évangile. Quand nous entendons le mot d'Évangile, ou quand nous avons de la communion concernant l'Évangile, je pense que beaucoup d'entre nous pensent dans un premier temps au fait de sortir, de parler à des personnes, faire une action. Oui. Oui. Dans le mot Évangile, il y a le fait d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais dans mon cœur, il n'y a pas ce fait de dire, allez, sortons maintenant, annonçons l'Évangile. Non, dans mon cœur, il y a autre chose. C'est de voir d'abord ce qu'est l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Pour avoir une appréciation de cet Évangile. Ce n'est pas un appel pour se lever et faire quelque chose. Non, mais j'aimerais vous montrer un peu quelque chose de ce qu'est l'Évangile de Dieu. Qu'est-ce? Et si nous avons une appréciation pour cet Évangile, nous l'apprécions, nous le vivons. Et cela fait une énorme différence. Et dans le résumé, j'ai mis deux passages. Dans le premier, point A, le contenu de l'Évangile et sa signification. Et le point suivant, c'est l'annonce de l'Évangile. Mais en premier, il s'agit d'apprendre à connaître cet Évangile. Et nous sommes trop restreints. Nous avons une vue trop étroite. Nous, les chrétiens dans l'ensemble, et nous aussi qui sommes dans la vie d'Église, si nous ne pensons qu'à une œuvre, une action, c'est trop restrictif. Dieu aimerait sauver tous les hommes, nous l'avons lu, et spécialement les croyants. Louez le Seigneur. Nous, les croyants, nous avons aussi besoin de l'Évangile. Nous le voyons dans la parole. Les plus jeunes frères et sœurs, même les écoliers, et j'espère qu'il y a quelques jeunes, je ne vous vois malheureusement pas, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée. C'est une nouvelle positive. C'est quelque chose qui réjouit. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Dieu a préparé une telle nouvelle, mais parce que pour beaucoup, elle ne consiste que dans le fait que des hommes n'aillent pas dans la perdition éternelle. Ils pensent que la bonne nouvelle, c'est simplement que des hommes ne doivent pas souffrir dans l'éternité, donc, mais être libérés de la perdition éternelle. Et ça, pour eux, c'est déjà suffisant. C'est une partie, mais c'est une petite partie de l'Évangile. Dans d'autres parties de l'Évangile que nous avons lues, Paul dit, il annonce les richesses insondables de Christ en tant que l'Évangile. Donc la bonne nouvelle est beaucoup plus. Elle est vraiment tout inclusive. Ce n'est pas seulement sauver des personnes de la perdition éternelle pour les incroyants, mais aussi pour nous les croyants. Quand nous parlons de la perdition éternelle, combien de croyants ne se sentent pas condamnés? Nous parlons aux incroyants de l'Évangile pour qu'ils ne soient pas perdus éternellement, et beaucoup de chrétiens vivent dans le fait de ne pas avoir, comme avec la conscience d'être condamnés. Mais de quoi avons-nous besoin, nous les croyants? De l'Évangile, d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui nous rende heureux, qui donne la joie, parce que Dieu a préparé quelque chose pour nous, que nous devons apprendre à connaître. L'Évangile est là pour cela, afin que nous apprenions à connaître ce que Dieu nous a préparé pour notre salut, pour notre sanctification, pour l'édification de l'Église. Donc, cela ne se restreint pas au fait de ne pas être perdu, ou pas seulement restreint aux incroyants. Cet Évangile, ce mystère que Dieu veut nous faire connaître, est pour tous les hommes. Il veut annoncer ce mystère à tous les hommes, et je trouve cela bon. Nous sommes privilégiés, non, tous sont privilégiés de la même manière. Nous-mêmes, il est bon pour nous que nous sachions ce que nous avons. Ce n'est pas que nous n'ayons rien, nous avons quelque chose. Mais souvent, nous ne voyons pas vraiment ce que nous avons. Nous l'estimons trop peu, nous l'apprécions trop peu. Ou alors, quand nous savons certaines choses, nous ne savons pas comment le communiquer plus loin. Parfois, quand nous, je ne sais pas comment vous le vivez, quand nous sortons dans la rue, nous voulons amener des gens plus au Seigneur, et une personne que nous rencontrons nous dit « Je suis déjà croyante ». Et alors, notre Évangile est-il terminé à ce moment-là? Oh, je suis contente pour toi. Et on s'arrête là. Comme si c'était tout. Non, l'Évangile comprend beaucoup plus de choses. Qu'est-ce que l'Évangile? Je ne vais pas prendre tous les points qui sont dans le résumé, mais je les ai inscrits. Le point A. Et je pense spécialement aux jeunes qui ont grandi dans la vie d'église ou aux parents qui sont devenus chrétiens seulement il y a, croyants seulement il y a quelques années, ou même ceux qui sont là depuis des dizaines d'années. C'est aussi pour eux. J'ai inscrit ce qu'est l'Évangile, le point. Par exemple, le pardon des péchés, ce n'est qu'un point de tout ce qu'est l'Évangile. Entrez dans ces points. Je ne vais pas rentrer moi-même maintenant là-dedans. Nous l'avons déjà entendu hier, nous sommes dans le lockdown. Après cette conférence, au début de la nouvelle année, rentrer là-dedans, dans ces points. Volontairement, j'ai inscrit tout ceci. Rentrer dans les versets. Creuse. Qu'est-ce que c'est que cet évangile que Dieu nous a donné? Occupe-toi avec cet évangile. Je pense qu'il est bon quand les jeunes gens dans la vie d'église grandissent, participent à la vie d'église. Et c'est très bien tout cela. Mais j'aimerais vous exhorter. Préoccupe-toi de cette parole. Qu'est-ce que l'évangile? Il y a plein de versets. Comment les versets vont avec les uns avec les autres? Et n'oublie pas de voir Jésus dans tout ce que tu lis. Et tu verras d'autres choses. Tu vas même être prisonnier, devenir un prisonnier pour l'évangile. Mais il faut que tu sois volontaire pour t'en préoccuper, pour t'en occuper. Donc j'ai besoin de m'ouvrir au Seigneur pour collaborer avec lui. Nous pensons que tout est clair. Alors, pourquoi Jésus devait-il venir? Posez-vous les questions. Encore une fois, pour les jeunes. Je parle beaucoup aux jeunes là, mais posez-vous la question. Pourquoi Dieu a-t-il dû envoyer son fils Jésus-Christ sur la terre? Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas simplement? Parce que Dieu est amour. Pourquoi il ne pouvait pas dire simplement, ok, tu as fait du faux pas, je comprends, ok, je ferme un œil et on continue simplement. Non. Pourquoi Dieu a-t-il dû envoyer son fils sur la terre? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Essaye de trouver la réponse. Rentre dans la parole. Pourquoi dut-il mourir à la croix? Jésus a dit, bon, s'il y avait un autre chemin. Et le Père répond, non. Le passage à la croix, de mourir à la croix, c'est le seul chemin. Mais pourquoi? En quoi cela est-il une bonne nouvelle? Jeunes gens, posez-vous la question. Quand vous lisez la parole, posez la question au Seigneur et posez la question à vos parents. Et ainsi, vous encouragez aussi vos parents à rentrer dans la parole. Pourquoi Jésus a dû-il passer par cela? En fait, nous acquiesçons. On dit oui à beaucoup de choses, mais sans savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Dieu a préparé des richesses insondables pour t'en faire. Mais nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas de cœur pour cela. Nous pensons, ah oui, il y en a un qui s'en est préoccupé, il va me le raconter, tout ce que Dieu a fait, et puis moi je vais l'apprendre, hop, tac, 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 tac. Mais non, en faisant cela, tu n'as rien si tu fais ceci. Simplement le fait d'acquiescer, tu n'as rien. Mais il faut que toi-même, tu t'occupes, lis la parole et parle avec Jésus. Donc là, on a déjà un point principal de la communion. Si cela, vous pouvez le recevoir, c'est crucial. L'évangile de Dieu est une personne, Jésus-Christ. Cette personne, Jésus, le « Je suis », qui est le fondement de tout, est l'évangile. L'évangile n'est pas un appel pour changer notre attitude. L'évangile nous présente une personne. Elle voudrait même nous révéler Christ, nous le faire connaître et nous faire rentrer dans la communion avec lui, dans cette communion avec Jésus-Christ. Dieu n'a rien d'autre pour nous en tant que l'évangile que Jésus-Christ. Et même Dieu a donné un temps pour l'annonce de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas que le début de notre vie chrétienne. L'évangile est notre vie chrétienne. Et c'est aussi pour que nous arrivions à la plénitude de notre vie chrétienne. Paul a dit reprendre les Galates qui sont des croyants. Et il les a exhortés pour qu'ils ne soient pas détournés de l'évangile. Pourquoi ? Nous étions donc tous sauvés de la perdition éternelle. Pourquoi est-ce qu'il doit nous rappeler cela, Paul ? Parce que sinon, il ne pourrait pas être rendu parfait. C'est l'évangile nous amène jusqu'à notre perfection. L'évangile, c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas un enseignement le concernant, ni une théologie. Est-ce que cela nous donne le salut ? Il ne s'agit pas d'un enseignement, d'un exposé. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ que nous devons connaître, avec laquelle nous devons entrer en communion, que Dieu veut révéler dans nos cœurs. Et il veut nous voir œuvrer cette personne en nous. Tout ce que Dieu a œuvré, qui est important pour nous, est œuvré en Jésus-Christ. L'évangile est cette expression qui dit Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. C'est une bonne nouvelle. Souvent nous regardons à nous-mêmes. Mais regardons à ce que Dieu a fait. Si nous regardons à nous-mêmes, il n'y a pas d'évangile. Ou bien nous sommes trop négatifs. Et quand c'est trop positif, ce n'est pas non plus l'évangile. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est en nous, mais c'est ce que Dieu a fait en Christ. Et ceci est révélé en nous, est œuvré en nous, est exprimé par nous. Que Christ devienne visible en nous, ça c'est l'évangile. Nous avons tous besoin de l'évangile. Et l'évangile encourage. Regardons ce que Dieu a fait. J'ai quelques points, mais je ne vais pas y rentrer ou les exposer. Sa personne, qui est-il? Lisez ces versets. Par exemple, B, point A, 1B, il accomplit les œuvres du Père. Et là, il y a quelques versets. Il s'agit de la personne de Jésus qui a accompli ses œuvres. Quand vous lisez ces versets, et quand Jésus vous parle, vous remarquez que c'est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un homme qui œuvre pour Dieu. Jésus n'a pas fait quelque chose pour Dieu, mais Dieu a œuvré en lui. Ce que Jésus a œuvré, c'est ce que le Père a œuvré en Jésus. Tu ne peux pas le séparer. C'est complètement différent. Et dans Apocalypse, nous avons lu récemment, dans notre communion à Bonne, dans Apocalypse 3, l'Esprit parle aux églises. Celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, il a ses œuvres. Ses œuvres, c'est une bonne nouvelle. Nous gardons ses œuvres. Nous rentrons là-dedans. Et parmi ses œuvres, il y a sa mort à la croix. Oui, naturellement, nous sommes sauvés par son sang. Mais également, l'œuvre qu'il est fait, que le Père a faite en lui, n'est pas seulement une œuvre. Ok, je l'ai fait. Et je l'ai rajouté au fait. C'est réglé. Non, c'est une œuvre qui est toujours encore en train d'œuvrer aujourd'hui en nous. Il l'a fait, oui. Il a pardonné nos péchés. Mais le sang, aujourd'hui, nous le prenons aujourd'hui, et il est efficace. Tu es croyant, tu connais l'évangile, tu prends le sang. Je peux poser la question, combien de fois as-tu pris le sang? Peut-être te dis-tu, oh, seulement quand je fais quelque chose de très grave. Non, il est bon de prendre quotidiennement le sang, même si tu n'es pas conscient d'une faute, simplement parce que Jésus-Christ nous a purifiés par son sang. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Prends ce sang. Rends-toi un avec l'Évangile. Merci Père pour ton sang. Simplement le matin, je dis simplement, merci Seigneur, purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton esprit. Je le prends, j'ai rien fait de particulier, mais j'apprécie, je prends son sang. C'est pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'appartiens à Dieu. Il est bon de commencer ainsi la journée. J'appartiens à Dieu, Dieu m'a racheté. C'est l'Évangile pour nous les croyants. Et ensuite, lisez les autres versets. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent simplement au pardon des péchés. Mais c'est beaucoup plus une bonne nouvelle. Notre vieil homme est mort avec Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle pour toi personnellement et aussi pour les humains qui t'entourent. Ton vieil homme est mort avec Jésus. Qu'est-ce qui nous crée souvent tant de problèmes? C'est le vieil homme. Oui, nous ne sommes sentons pas capables ou plein d'autres choses. Ou nous sentons capables et alors les autres. Bon, notre vieil homme est un tel problème. Mes chers frères et sœurs, je parle à des croyants. Il y a un évangile. Il y a une bonne nouvelle qui nous rend heureux. Notre vieil homme est mort, crucifié. Louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur. Nous l'avons entendu hier, rendre grâce. Rendez grâce à Dieu pour cela. Et là, tu te rends un avec cela. Il y a tant de choses. Ça, c'est le salut. Ça, c'est le salut. Une bonne nouvelle. Plus le salut. Cela a à voir avec la sanctification et avec l'édification de l'Église. Pourquoi l'Église peut-elle pas être édifiée? Parce que mon vieil homme est toujours présent. Mais il y a une bonne nouvelle. En Christ, notre vieil homme est mort. Il a été crucifié. Et c'est pourquoi, laisse-toi baptiser. Rends-toi un. Crois et sois baptisé. Cela fait partie de l'Évangile. Oui, il nous faut rendre un avec cela. Le pardon, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être proclamé, mais nous devons nous rendre un avec ce pardon. S'il s'agit seulement de la perdition éternelle, nous n'avons pas beaucoup à annoncer. Mais quand nous voyons quelle est l'œuvre de Dieu en Christ, il y a tant. Ça, c'est décisif. C'est l'esprit. Nous n'avons pas lu le verset, mais c'est écrit tout en haut, sous le titre principal du deuxième message, Colossiens 1, versets 24 à 29. Il s'agit là de que cet évangile soit proclamé, que Christ doit entrer en nous. C'est un mystère, de nouveau un mystère. Christ en nous. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience. Ils ont reçu le Seigneur, mais ils n'ont pas conscience que Christ est en nous. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que veut dire être mort avec Christ. Ne savent pas ce que veut dire Christ vit en eux. Il y a tant de choses. Et il y a des nécessités pour nous de connaître ce qu'est l'Évangile afin que ça puisse aussi sortir, aller dans la rue, que ce soit dans la rue ou peu importe où nous sommes. Il s'agit d'abord que nous saisissions ceci Et cette puissance que nous la saisissions, parce que dans cet évangile, il y a toute la puissance de Dieu. Ça aussi, c'est une partie de l'évangile. Combien de fois nous, les chrétiens, ne nous sentons-nous pas sans force? C'est dû à quoi? C'est que nous devons entendre l'évangile et croire l'évangile. En fait, nous ne croyons pas tout l'évangile. Nous prenons des morceaux seulement. Mais il nous faut croire tout l'évangile. Tout l'évangile, c'est cette personne et ce que le Père a fait dans cette personne, Jésus, et qui est pour nous. Il est dit, crois et sois baptisé. Nous avons ici à Bonn quelques baptêmes et c'est un témoignage que l'évangile a été accepté. Si j'ose le dire, et en période de crise avec le coronavirus, il y a eu beaucoup de questions. Où en suis-je? Dans ma vie chrétienne? Tout est devant toi. Écoute l'évangile. Et cette impression qu'ils ont reçue du Seigneur, c'est de se faire baptiser, de croire et se faire baptiser, vont ensemble. C'est un témoignage. C'est un témoignage de ce que j'ai aussi accepté cela. Certains disent croire suffit. Non, croire et se faire baptiser. Désolé. Alors ils disent, il y a Marc 16, il est dit, je crois, mais il est dit, avant celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Si tu ne crois pas, il n'est même pas besoin de parler de baptême. Le baptême, c'est le témoignage de ce que je crois. Et ensuite, on a la base pour tout prendre, tout saisir de l'évangile. Et je viens dans le point 2. Regardons voir ceci. Rentrez dans ces mots. Saisissez-les. Ces paroles. Le point, c'est pas que Dieu veuille simplement nous montrer tout ce qu'il a fait en Christ. Qui il est et ce qu'il a fait, mais ce qui est décisif, c'est que Dieu veut nous amener dans la communion avec cette personne, avec Jésus-Christ. L'évangile montre avant tout comment Dieu et les hommes peuvent se rencontrer en Jésus-Christ. Amen. Nous rencontrons le Dieu vivant en Jésus-Christ. Il nous faut entrer en lui. Il n'y a pas d'autre chemin que possible. En fait, ce qui est puissant, c'est que nous pouvons rencontrer Dieu. Et ce qui était impossible auparavant. Tu pouvais l'entendre, tu pouvais le servir, mais rencontrer directement le Fils, ce n'est possible que dans le temps dans lequel nous vivons, au travers de l'Évangile. L'Évangile ne fait pas de nous des personnes religieuses. L'Évangile fait de nous des personnes qui ont de la communion avec Dieu. J'aimerais lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 9.
Nicht darin, dass nur etwas getan hat und es getan ist.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, pas dans le fait qu'il a simplement fait quelque chose. Quelque chose est fait, c'est sûr. Il ne s'agit pas simplement d'accepter quelque chose. Oui, c'est fait. Oui, notre vieil homme est crucifié, oui. Nous sommes montés en ascension avec Christ et assis dans les lieux célestes. Oui, c'est fait. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut entrer dans la communion. Dans la communion de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi la communion de son Fils? Je dois dire qu'il y a quelques jours, quelques semaines, j'avais une conversation et il y avait un point qui a été évoqué. Il était question du fait de parler à quelqu'un. Jésus doit être la personne à qui tu parles. Alors, il nous faut avoir la communion. Pas seulement que Dieu a fait quelque chose en Jésus-Christ et qui lui maintenant est à la droite de Dieu. Ok, c'est fait. C'est tout. Non, il l'a fait afin que nous rentrions dans la communion avec lui. Afin qu'il soit celui avec qui nous parlons. Il doit être, entre guillemets, notre partenaire de partage. Alors, nous expérimentons toutes les richesses. Oui, l'Évangile est puissant et grandiose. Un autre point qui m'a touché énormément la semaine dernière. Oui, c'est clair, nous le savons, mais moi aussi j'ai vu quelque chose. Cette œuvre que Jésus, que Dieu a faite en Jésus-Christ, revient toujours, et c'est pour tous les hommes et pour chacun qui croit. Il y a d'autres méthodes, d'autres choses qui ne sont pas pour tous. Certaines choses correspondent plus aux uns ou aux autres, mais cette personne de Jésus, cette œuvre est bonne pour tous les hommes. Il a établi un plan, un dessin, oui, il l'a développé, disons-le comme ça, il l'a accompli. Et ce qu'il a accompli est vraiment pour tous les hommes. Ce qu'il veut est pour tous les hommes et est efficace pour tous les hommes et est disponible aussi pour tous les hommes. Tu n'as pas besoin d'être un homme spécial. Tu peux être une personne toute simple et tu peux être une personne toute compliquée. Cet évangile est efficace pour tous les hommes. Qui peut faire cela? Si aujourd'hui tu vas dans une entreprise qui développe des produits, oui, parce qu'ils désirent avoir de plus, le plus de clients, mais ce ne sera jamais adéquat à tous les hommes. Mais l'évangile est pour tous les hommes, pas seulement pour les juifs, pas seulement pour les grecs, pour nous aussi. Peu importe ta culture, peu importe ton arrière-plan, peu importe que tu aies des problèmes ou non, peu importe que nous soyons faibles ou forts, mais c'est pour tout. Pour tous les hommes. Ça me plaît. Et en plus, c'est efficace, plein de puissance. Et cela amène en existence la gloire. Ouais. Et ma femme qui est ici me dit oui, à chacun qui croit. Oui, nous avons besoin de participer, de vouloir participer. Cela nécessite toujours notre collaboration, qui est notre foi, pour chacun qui croit. Et notre foi, ce n'est pas en nous, ce n'est pas en d'autres personnes. Cette foi est en Jésus-Christ. C'est ainsi. Et elle est efficace. C'est étonnant, mais cela est efficace pour l'édification de l'Église. Qui peut bâtir sinon l'Église? Ce n'est faisable qu'en Jésus-Christ. Et ce Christ, cette œuvre de Dieu, cette œuvre que Dieu a faite en Jésus-Christ, celle-là, nous l'annonçons. Oui, nous le proclamons. Imagine-toi, nous n'avons pas besoin de convaincre les gens. n'avons pas besoin de dire tu dois croire. Pourquoi? Je ne dois rien, non? Ouais, mais si tu désires avoir la bénédiction de Dieu, tu as besoin de faire ce pas. Et si moi je ne veux pas? Dieu a préparé quelque chose. Il n'a préparé qu'une seule chose. Un seul évangile. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce chemin est pour tous les hommes. Malheureusement, ce n'est même pas connu. Dans notre culture, même dans notre culture chrétienne, ce n'est pas connu. Quand tu penses, quand tu te dis, ah, mais tant de choses sont connues. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu peux même aller dans une école biblique et tu ne connais pas l'évangile. Que l'évangile est Christ qui veut venir en toi et veut être ta vie. Est-ce que cela signifie de vivre Christ? Jésus-Christ est tellement inconnu. Oui, il nous faut les informations. Et une fois de plus, c'est pas simplement pour que nous soyons pas perdus. La vie d'Église est l'Évangile aujourd'hui. Quand je vais dans la rue, quand je parle avec des gens au stand, je ne suis pas un évangéliste né, mais je suis simplement là. Les gens viennent vers moi, posent des questions. Je parle de ce qu'est Jésus, de ce qu'il a fait, pourquoi Dieu a fait cela, pourquoi c'est important pour Dieu. La meilleure des choses que je puisse dire, c'est simplement, viens et vois. Viens l'Église. Vois l'Église à Bonn. Tu verras quelque chose. Et ce que tu vois, tu toucheras quelque chose en vous voyant. Ça, c'est l'Évangile. Dieu devient visible au travers de nous. Et il faut que ce soit dit, annoncé. Et pour nous aussi, les chrétiens, il faut que ce soit dit. Nous, les chrétiens, nous savons trop peu. Il y a un besoin. Ça n'a pas besoin d'être dans les rues. Mais entre nous aussi, proclamons les bonnes nouvelles. Dans les réunions aussi. Dans les communions, dans les maisons. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Parce que tout en ce moment, on ne va pas parler des problèmes, de nos soucis. On peut aussi en parler. Mais parlons de la bonne nouvelle de Dieu. Dieu œuvre par le fait qu'il parle. Quand nous parlons, nous ne voulons pas être les personnes qui convainquons les personnes, mais nous témoignons simplement. Et nous pouvons attendre, nous désirons atteindre le cœur des personnes afin qu'elles ouvrent leur cœur, afin que l'Esprit puisse convaincre leur cœur. Que l'Esprit révèle Jésus-Christ dans les cœurs. Parfois, l'Esprit nous manque et il ne s'agit pas de nos capacités, de nos dons. Non. L'Évangile doit être proclamé afin que l'Esprit puisse œuvrer dans le cœur des personnes et afin que tout le dessein de Dieu soit exposé. C'est merveilleux, Seigneur. Je pense que quand vous lirez les versets, j'ai déjà tant parlé. L'Esprit va nous conduire. C'est un combat. Pourquoi? Parce que l'ennemi de Dieu s'élève contre cela. Il y a l'ennemi de Dieu. Il existe. Et il œuvre dans l'intelligence des gens. Donc il est important, quand l'évangile est annoncé, que l'intelligence soit changée, tournée. Il y a toujours à nouveau un combat. Il nous faut nous tourner aussi quand le Seigneur nous parle. C'est toujours à nouveau un combat. Qu'est-ce qui est crucial dans Apocalypse, quand il parle aux églises, Christ est présenté, c'est l'évangile. Et ensuite, il est dit, l'Esprit dit aux églises, et il nous faut nous écouter. L'Esprit parle au travers de nous. Il révèle Christ au travers de nous. C'est nécessaire. Et tout à la fin d'Apocalypse, il y a le même principe encore. L'Esprit et l'Église disent, viens, et que celui qui entend, qu'il entend, dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau. Il y a toujours de nouveau cette disponibilité, le fait d'être volontaire, mais il faut que ce soit être dit, entendu, et ensuite, nous pouvons voir comment Dieu œuvre. Ce n'est pas nous qui produisons quoi que ce soit. Oui, nous pouvons mettre sur pied des actions, mais je ne suis pas du tout convaincue que ce soit s'agisse de cela. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons saisi des choses, nous voulons en saisir plus. Et nous voulons encore connaître plus profondément et distribuer ce que nous avons reçu. Mais c'est Dieu qui a la toute-puissance. Je vous ai donné la puissance. Allez-y. Nous allons, nous parlons. Et aussi dans Apocalypse, à Philadelphie, le Seigneur dit, j'ai ouvert la porte. Il ouvre les portes. Nous parlons et nous regardons où le Seigneur ouvre les portes. Et quand le Seigneur a fermé les portes, nous continuons. Amen, Seigneur Jésus. Je pense que le Seigneur va encore ouvrir beaucoup de portes, mais les gens doivent entendre cette parole. Et même s'ils disent non, nous n'avons pas le droit d'être offensés. Oh, il n'accepte pas ma parole. Oh, qu'est-ce que j'ai dit de travers? C'était vraiment un peu bizarre la manière dont je l'ai partagé. Peu importe cela. Et il y a longtemps, il y a des années, j'ai voulu dire à quelqu'un quelque chose. Ça m'a semblé tellement difficile, j'ai pas trouvé les paroles. Et là, j'ai pas compris le frère. Alors, la personne en face a dit, mais dites-moi ce que vous voulez me dire. Voilà. Que je devienne rouge ou non, que je pâlisse ou non. Et quand je vois des gens à plusieurs reprises, je peux leur reparler de nouveau. Je voudrais rajouter quelque chose. Nous parlons avec les personnes. Le fait de leur expliquer quelque chose. Les aides. Nous pouvons présenter pourquoi Dieu a fait cela. Louez le Seigneur.